dans un livre intitulé « Les cendres d'Angela », l'écrivain Frank McCourt raconte des difficultés de la vie des immigrés irlandais aux États-Unis au début du XXe siècle. McCourt est né dans la pauvreté à New York. Sa mère était une jeune fille naïve, son père un alcoolique au chômage. Il a connu la faim. Il a vécu la mort de ses petits frères et sœurs les uns après les autres. Il a fait l'objet de nombreux préjugés à cause de son origine irlandaise. Avec tristesse, il raconte la décision que ses parents ont prise un jour de retourner en Irlande. Il ajoute qu'ils étaient peut-être la seule famille irlandaise de toute l'histoire à avoir volontairement dit adieu à la Statue de la Liberté. Dans les premières lignes de son livre, il nous dit ceci. Il y a pire qu'une enfance misérable. C'est une enfance misérable en Irlande. Il y a pire encore, une enfance misérable en Irlande catholique. La jeunesse de McCourt a été misérable et toute sa vie, il a cherché à quitter sa famille pour tracer son propre chemin. Que ce soit à New York, en Irlande, il a été toujours un étranger, sans pays et sans attache dans le monde. Alors la plupart d'entre nous ne savons pas ce que sont les difficultés d'une vie d'immigré, comme la vie de McCourt. Mais nous tous, nous savons ce que sont des préjugés, je pense, l'exclusion, l'aliénation. Peut-être que nous avons déjà été exclus à cause de nos croyances, par exemple, ou à cause de notre race. Quand nous visitons un pays étranger, c'est peut-être la langue qui nous exclut. De plus, notre niveau économique, nos connexions sociales vont parfois aussi nous exclure de certaines activités. C'est un problème qui touche le monde entier, n'est-ce pas? Des gens qui sont aliénés dans leur propre pays, dans leur propre école, sur leur propre lieu de travail, dans leur propre famille peut-être. Et peut-être que nous nous sommes déjà sentis exclus même dans l'Église. Dans ce monde de préjugés, d'exclusion et d'aliénation, y a-t-il une espérance? Ça c'est la question. Est-il possible de trouver la paix et le réconfort? Moi je pense que oui. Je pense que la réponse à cette question se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 22, qui représente la suite de notre étude dans ce livre de la Bible. Ces 12 versets nous parlent d'un processus qui commence avec l'aliénation des hommes vis-à-vis de Dieu, qui passe par la réconciliation rendue possible par Christ et qui s'achève avec l'intégration des gens dans la famille de Dieu. Je vous invite donc à lire avec moi ce texte qu'on trouve en Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. Je vais inviter Christophe de venir lire ce texte pour nous aujourd'hui.
Donc je lis dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 22. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle, la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même en étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit.
Merci Christophe. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, nous reprenons un autre conte, les paroles du psalmiste qui après « Instruis-nous, éternel, dans la voie de tes prescriptions, pour que nous les gardions jusqu'à la fin. » C'est là notre prière, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole et à l'appliquer à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte commence par un appel au souvenir. En s'adressant à l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul leur dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez autrefois des ennemis de Dieu, sans Christ, sans espérance et privés de l'alliance de la promesse. Souvenez-vous que vous étiez des païens. Souvenez-vous que vous étiez exclus. Souvenez-vous que même dans votre chair, vous ne portiez pas le signe de l'alliance, c'est-à-dire la circoncision, comme on lit au verset 11. Ce qui est au cœur des versets 11 et 12, c'est l'idée de l'exclusion, de l'aliénation des païens. Et le signe de leur exclusion était l'incirconcision. L'incirconcision, le fait de ne pas être circoncis. Il faut bien comprendre que pour les Juifs, la circoncision était le signe visible de la promesse de Dieu. La circoncision était une marque physique qui distinguait le peuple de Dieu de tout autre peuple du monde, en fait. Et pour cette raison, l'incirconcision, le fait de ne pas être circoncis, était considéré comme une marque profane. La circoncision était le signe visible que le monde était divisé en deux peuples. Le peuple de Dieu, qui a reçu la faveur de Dieu par sa grâce, et les païens, qui n'étaient pas en communion avec Dieu. Ceux qui portaient ce signe étaient privilégiés. Et donc, en refusant à certains ce signe, on leur refusait ce qui était représenté par le signe. En refusant ce signe aux païens, on leur défendait de s'identifier à la grâce de Dieu, en quelque sorte. Ce signe extérieur représentait une réalité objective, à savoir la promesse de Dieu avait faite, que Dieu avait faite de sauver les pécheurs par le sacrifice de Jésus. Mais la question qui se pose est la suivante. Si la circoncision représentait la promesse de Dieu de bénir toutes les nations par l'intermédiaire du Messie, pourquoi les païens n'avaient-ils pas eux aussi ce signe pour leur témoigner cette espérance? Dans un sens, la circoncision des Juifs pointait vers la promesse de Dieu d'offrir une espérance au monde. Mais la réponse logique que nous trouvons dans ces deux versets, c'est que les païens n'ont pas été depuis toujours formellement invités à bénéficier de cette promesse. Avant la venue de Jésus, le signe de la circoncision n'avait un sens que très vague pour les païens. Les païens étaient aveugles au sens de ce signe. De même, si nous ne sommes pas habitués à un signe ou à un symbole dans notre vie quotidienne, ce signe ou ce symbole n'a pas beaucoup de sens pour nous. Dans nos pays occidentaux, nous reconnaissons instantanément les logos de beaucoup de produits, n'est-ce pas? Je pense à des produits comme Coca-Cola ou McDo ou BMW ou Michelin ou d'autres produits comme ça. Mais si vous montrez ces logos à une tribu reculée d'Amazonie qui n'a jamais eu de contact avec le reste du monde, ces gens-là ne comprendraient rien de ces logos. Et ne manifesterait aucun intérêt pour ce qu'ils représentent, n'est-ce pas? Ils n'ont pas accès à ces produits, ni le désir de les utiliser. La circoncision aussi était donc un genre de logo, un signe qui représentait la faveur de Dieu et qui était réservé aux Juifs. Par contre, nous lisons dans ce texte que les païens étaient sans Dieu. Ils étaient considérés comme les athées. Même les païens de la ville d'Éphèse au 1er siècle, avec tous leurs dieux grecs et romains, étaient comptés parmi les athées. Ni leur piété, ni leur sincérité, ni leurs nombreux rituels ne changeaient quoi que ce soit au fait qu'ils étaient sans Dieu dans le monde. Ces païens étaient aliénés de Dieu, exclus du peuple de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons certainement tous, à un moment ou à un autre, vécu un genre d'aliénation ou d'exclusion dans notre vie. Cette aliénation sociale est peut-être irrémédiable, mais la suite de ce texte propose en tout cas un remède à l'aliénation spirituelle. L'idée principale de ces versets, les versets 13 à 18, la suite, se trouve au verset 14. Dieu est notre paix. Dieu est notre paix. Et comment Dieu est-il notre paix? Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a apaisé la colère juste de Dieu, qui était dirigée contre un peuple rebelle. Et en restaurant la relation des gens à Dieu, Jésus a restauré la relation des gens entre eux aussi. Notez bien au verset 14 que l'apôtre Paul ne s'adresse pas à vous, comme dans les versets précédents, mais à nous. Il s'inclut maintenant lui-même dans son discours, ainsi que tout le peuple juif. Il ne s'adresse plus aux païens exclusivement, mais à tous les païens et à tous les juifs, par leur foi en Jésus. Ils ont réconcilié à Dieu et réconcilié les uns aux autres. Il réprime donc l'orgueil des Juifs qui risquaient de penser qu'ils étaient supérieurs aux autres. Il élève les païens qui ont toujours, jusqu'alors, été méprisés. Paul dit que les deux, Dieu n'en est fait qu'un. C'est incroyable ce que l'apôtre Paul dit dans ces versets. Les Juifs, nation choisie par Dieu, qui a reçu sa révélation, sont maintenant unis aux païens. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a fixé des barrières, en quelque sorte, entre les Juifs et les païens. Dieu a séparé son peuple du reste du monde en choisissant de sanctifier les Juifs. Les ordonnances, les sacrifices, les rituels et la circoncision servaient du mur de séparation entre le peuple de Dieu et les peuples du monde. Mais en Christ, qui est mort sur la croix pour réconcilier les hommes à Dieu, toutes ces ordonnances, tous ces sacrifices, tous ces rituels ont été annulés, abolis, on lit dans le texte. Les païens ne sont plus séparés des Juifs par un mur d'hostilité, mais ils sont inclus avec les Juifs en tant que destinataires d'un héritage unique et extraordinaire en Christ. Dieu est notre paix, selon ce texte. C'est Dieu qui réconcilie toutes choses. En réconciliant les gens avec lui-même, Dieu réconcilie les gens les uns aux autres. L'église d'Éphèse était constituée de gens qui étaient autrefois radicalement opposés les uns aux autres, mais qui en Christ ont été réconciliés dans la paix. C'est la croix de Jésus qui a aboli l'hostilité entre les Juifs, qui étaient proches, selon le verset 17, et les païens qui étaient loin, selon le verset 17. Jésus a fait des frères de nations différentes, de races différentes, de classes différentes. En fait, ce n'est que par l'œuvre de Jésus à la croix que nous avons la possibilité de connaître une paix véritable dans notre propre cœur et une paix véritable dans nos relations avec les autres croyants. Toute promesse de paix véritable est vaine si Christ n'est pas au centre de cette promesse. C'est vrai qu'on se préoccupe beaucoup de la paix dans ce monde. On parle de la paix en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Palestine. On parle de la paix entre les partis politiques, entre des races, ou entre les groupes de langues différentes. On voit la violence de l'islam radical en Afrique et en Asie, et on aimerait qu'il y ait la paix entre les religions. On parle constamment de la paix mondiale. On investit beaucoup de temps et d'argent dans la recherche de cette paix, n'est-ce pas? Et sur quoi nous appuyons-nous pour trouver la réconciliation? Sur nous-mêmes, bien sûr. Sur l'homme. L'humanisme, c'est ce qui assurera la paix dans ce monde, selon nous. On doit tout simplement remplacer toutes les religions du monde par la philosophie humaniste, qui est elle-même une religion, mais peu importe. On doit tout simplement répéter 10 000 fois le mantra « Je suis tolérant ». On doit tout simplement placer notre foi en l'homme, n'est-ce pas? Avec les meilleurs présupposés darwiniens, il nous suffira de nous tourner vers la science empirique et vers l'étude de notre évolution pour trouver la paix dans ce monde, n'est-ce pas? C'est un peu ironique parce que si on étudie l'histoire de l'homme, qu'est-ce qu'on découvre sinon qu'il est violent, intolérant, arrogant et plein d'avidité? Mais qu'est-ce qu'on en conclut? Que la paix se trouve dans l'homme. Qu'on n'a pas besoin de Dieu pour trouver la paix. Ça, c'est notre idée. Savez-vous que les régimes athées en Russie, en Allemagne, en Chine et en Cambodge sont responsables de plus de morts au XXe siècle que toutes les guerres de religion additionnées depuis l'époque de Jésus? C'est vrai. L'étude de l'homme révèle que l'homme résiste à la paix. Et cette foi humaniste athée qui affirme qu'on est capable de trouver la paix en l'homme n'est pas fondée sur la réalité. Regardez autour de vous. Où est la paix dans ce monde? Le cœur de l'homme est rempli de colère, de soucis et de déceptions. Nous sommes tous des bombes à retardement, en fait. Mais que dit la Bible? C'est Dieu notre paix. C'est Dieu notre paix. Par le sacrifice de Jésus, notre relation avec Dieu peut être restaurée si nous nous repentons de nos péchés et si nous mettons notre confiance en lui. C'est ça la paix la plus importante. La paix entre Dieu et nous. Dans une autre lettre de l'apôtre Paul, l'épître aux Philippiens, il est dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder notre cœur et nos pensées en Christ Jésus. Jésus nous réconcilie avec Dieu. Il nous réconcilie avec nous-mêmes. Il nous réconcilie avec les autres, quelle que soit leur race, leur langue, leur classe ou leur culture. Ce n'est pas en nous qu'on peut trouver la réconciliation, mais c'est en Jésus, le prince de la paix. Tout ça nous amène au verset 19 à 22 et à notre dernier point. Avec la réconciliation vient l'intégration. En Christ, l'exclusion est terminée. Même si vous avez été rejeté par la société, par vos amis, par votre famille, vous n'êtes pas sans espérance. En Christ, vous êtes pleinement inclus dans quelque chose de plus important encore, la famille de Dieu. En Christ, vous appartenez à l'Église universelle que Dieu a prévue et constituée. Cet édifice, ce temple, cette maison de Dieu est construite sur un fondement solide. Et l'inclusion des païens dans cette maison ne représente pas une improvisation de la part de Dieu. Selon l'apôtre Paul, les Éphésiens représentent l'accomplissement d'une œuvre de Dieu, annoncée par les prophètes et proclamée par les apôtres. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà annoncé par les prophètes son intention de sauver les Juifs et les païens. Et ce que Dieu a révélé par les apôtres à l'époque du Nouveau Testament confirme ce qu'il avait révélé par ses prophètes plusieurs siècles auparavant. mais c'est plus qu'une promesse. En fait, aujourd'hui, cette promesse s'accomplit. Cette promesse s'accomplit. Le fondement inébranlable, c'est Jésus. C'est lui qui joint les Juifs et les païens. C'est lui dont Dieu parle par le prophète Ésaïe quand il dit « J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. » Dieu bâtit sa maison sur cette pierre en nous utilisant comme matériaux de construction en fait. Quel que soit notre arrière-plan ou notre passé, nous sommes indispensables à la construction de sa maison. Pour construire son église, il nous a joints ensemble. Tous les croyants, des gens d'Occident, des gens d'Orient, des Blancs, des Noirs, des Français, des Américains, des Nigériens, des Brésiliens, des Australiens, peut-être, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un, mais tout le monde en fait. Ça me fait penser aux cabanes qu'on construit avec des rondins. Peut-être vous connaissez ça, vous avez certainement déjà vu ce genre de cabane. J'ai habité pendant quelques années dans une région où il y avait beaucoup de ces cabanes abandonnées dans les montagnes qui servaient autrefois aux chercheurs d'or. Elles étaient construites sans clous ni vis. On faisait simplement une entaille à chaque extrémité de chaque rondin pour qu'ils tiennent les uns sur les autres. C'est comme ça qu'on réalisait un mur, ou deux murs en fait. De cette façon, chaque rondin de chaque des murs était consolidé par les autres rondins. Et c'est ça l'image qu'on a dans ce texte des chrétiens intégrés. Nous sommes indispensables à la construction de la maison de Dieu, sur le fondement des promesses de Dieu révélées par les prophètes et accomplies en Christ. Avant la venue de Jésus, Dieu se manifestait dans le temple à Jérusalem, une fois par an. Un seul homme, le souverain sacrificateur, avait le privilège de faire expérience de la gloire de Dieu. Mais seulement après que ce sacrificateur ait accompli une longue purification, c'était nécessaire. Et pourquoi? Parce que logiquement, un Dieu qui est trois fois saint ne tolère pas la présence d'un peuple pécheur. Avant la venue de Jésus, le signe de son alliance était aussi le sang de la circoncision. On avait le temple, on avait la circoncision. Mais avec la venue de Jésus, qui a vécu une vie parfaite sans péché et qui a payé le prix de notre péché contre Dieu, nous les croyants, nous sommes déclarés justes et saints devant Dieu. Avec la venue de Jésus, c'est nous qui sommes devenus le temple où l'Esprit de Dieu demeure. Avec la venue de Jésus, le signe de l'alliance qui était autrefois sanglant est remplacé par le baptême, qui pointe vers la purification des péchés accomplie une fois pour toutes par la mort de Jésus. Avec la venue de Jésus, si nous avons placé notre foi en lui, nous recevons une nouvelle identité en tant que membre de la famille de Dieu. Bien sûr que nous nous identifions tous à notre nationalité, c'est vrai, à notre famille, à notre éducation, à la couleur de notre peau, à notre passé. Et ces choses sont toutes bonnes. On ne doit pas nier ces réalités. Mais plus que toutes ces choses, notre identité est en Christ, en Jésus. Bien sûr que nous nous identifions aussi des fois au péché de notre passé, ou à l'exclusion, ou à l'aliénation dont nous avons été victimes. Et ça, c'est triste aussi. Mais encore une fois, notre identité n'est pas dans ces choses, mais en Christ, en Jésus. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et c'est en lui que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Et que nous avons été reçus dans sa famille. C'est en lui que nous pouvons connaître la paix qui surpasse toute intelligence, qui caractérise son Église. C'est en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour cette identité que nous avons en toi. Nous te remercions pour le fait qu'il n'y a plus d'aliénation ni de condamnation pour ceux qui sont en toi, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es notre paix aujourd'hui et pour toujours. Nous te remercions pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.